Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à tous les passionnés du vin, mais également de la modération. Ravi de vous retrouver, comme tous les samedis, chez le caviste Nicolas Paris. Vous écoutez le numéro 1049 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. On salue les auditeurs qui nous écoutent, par exemple, à Nîmes, qui est aujourd'hui sur 104.7. Retrouvez également nous sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un très joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Yulin Lee, qui est dirigeant donc de la maison du saké, qui a écrit un excellent bouquin avec notre ami et confrère Fabien Humbert, qui s'appelle Saké, tout simplement, voilà. Et puis le vide quiz pour gagner un coffret de la marque Divine et Siver, œnologue expert de la marque Chef et Sommelier, en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Ingal. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous.
Et Philippe Forbrac, auteur notamment de l'ouvrage Accord Vins Aimés. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Jérémy Duprat, vigneron en Savoie. Bonjour Jérémy.
Bonjour à tous.
Alors, racontez-nous votre belle histoire de vin. Tout débute en 1880 et vos épaules sont costauds. Heureusement, vous êtes la sixième génération.
Heureusement, je suis la sixième. Il y en a eu cinq avant qui ont beaucoup travaillé. Clairement, le lundi matin, quand on se lève et quand on va dans les vignes, on n'y pense pas vraiment. Et le fait de se retrouver parfois devant les micros pour se faire poser des questions ainsi, on a toujours une sorte de stress, évident. Là où c'est important, c'est que, en fait, en 1880, les vignobles savoyards sont majoritairement peu professionnels. En fait, on est multiculturel et on a de l'élevage, on a beaucoup d'autres cultures, il y a un peu de vin. Et en 1880, exactement, la famille Duprat fait du vin dans une petite maison au reposoir, donc sur Apremont déjà, qui est une sorte de ferme coopérative des premières heures, puisque, en fait, il y a huit paysans qui cultivent. De ces huit paysans, il y a mon aïeul François Duprat, et de ce François, il va lui faire du vin. Ce qui est assez amusant, c'est que ce sont des fermes à ce moment-là qui sont dédiées aux hospices de Chambéry. Et en fait, on y fait à peu près toutes les cultures potentielles, mais en fait, il y a un représentant par culture dont j'ai hérité le vin. Alors, ça aurait pu être autre chose, mais bon, il se trouve que ça a été le vin qui est dans notre sang depuis le début. Là où c'est important, c'est que dès cette période-là et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on n'a fait que se transmettre un certain savoir. Et surtout, on a toujours essayé d'appuyer sur un terroir richissime, puisque le reposoir n'a rien à voir avec Apremont majoritairement, puisqu'on n'est pas dans l'éboulement du Mont-Granier.
Donc, oui, on parle pas ça, des quoi. Sols. Et vous bossez en famille, alors ?
Exactement. Alors, aujourd'hui, Maxime, mon petit frère, est rentré au domaine en 2020. Je suis très heureux. Alors, on est très heureux tous les deux parce que, en fait, depuis 1880, il y a toujours eu deux lignées Duprat au reposoir.
Ah oui, simultanées.
Simultanées, exactement. Et on est la toute première à travailler ensemble sous le même nom.
Mais vous engueulez pas jamais, non, mais
ah, si,
pas,
si,
c'est
si, justement,
quoi.
C'est tout l'intérêt. C'est l'avantage d'avoir.
Et des lequel
frangins.
Des deux a raison régulièrement?
Jamais l'un.
Très jolie
Hélène,
réponse.
Hélène.
Bravo.
On a toujours tort. À partir du moment où on s'engueule, on s'en a tort.
C'est très, très, très jolie philosophie. Donc, effectivement, Marc, votre papa, à peine retraité, mais il a toujours un œil sur le domaine.
Difficile de vraiment d'être retraité en étant vigneron.
C'est ça. et puis, effectivement, vous, Jérémy, depuis 2014, Maxime qui vient de vous rejoindre. Cela dit, vous avez failli mal tourner, hein, parce que vous n'avez pas commencé par la vigne.
Très clairement, oui, parce qu'en fait, très jeune, moi, je suis un très mauvais écolier. Et en fait, quand on aimait vos écoliers dans une famille vigneronne, on a toujours désigné volontaire pour aller dans les vignes. C'est comme ça que je me suis présenté très tôt, en tout cas.
À quel âge ?
Autour de 12 ans, à peu près, j'ai commencé à tirer les bois. J'ai attaché autour de 13 et 14 ans. Enfin, voilà. On appelle ça l'aide familiale, techniquement, mais
oui.
C'est pour la MSA.
C'est ça, quoi.
Voilà. Non, mais du coup, voilà, très tôt, je me suis retrouvé. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et très tôt, je me suis dit, en fait, ce n'est pas ce métier qui m'intéresse. J'ai fait des études en informatique. Des études en informatique que je suis plutôt content d'avoir fait, puisqu'elle me servait énormément encore aujourd'hui. Mais vous pouvez pas savoir le nombre de fois d'ailleurs où ça sert. Clairement, dans un métier.
Quoi, par exemple?
Clairement, une caisse automatique ou un ordinateur qui fait les factures et qui imprime rien. Clairement, Jérémy,
viens nous aider. Suisse,
le couteau suisse,
c'est Jérémy.
Ou même dernièrement, là, on a eu une carte mère de programmation du tracteur qui a flanché. Il a fallu sortir le poste à soudure et on n'est jamais plus content que ça.
Non, mais c'est dommage parce que la voiture de Philippe Forbrac ne démarre plus. Donc, éventuellement, c'est après l'émission, vous pouvez y passer.
Et
moi, j'ai un trou également dans le garage. Là, c'est...
Je compatis avec Jérémy parce que j'ai un peu cet aspect-là aussi de ma vie.
J'adore bricoler, j'adore essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait trouver des solutions. Et effectivement, du coup, on me dit, Philippe, tu n'as pas une idée pour ça.
Voilà,
c'est génial en même temps.
Ça finit toujours comme ça. C'est assez amusant dans un sens. Et bref, il faut avoir les épaules pour le porter. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai tourné de l'informatique au vin ? Alors, finalement, c'était très latent. Parce que avant de commencer mes études en informatique, je suis parti en Angleterre pour apprendre l'anglais. C'est assez pratique.
Comment étaient les petites anglaises à l'époque ?
Alors, les petites anglaises étaient fort sympas. Puisqu'en plus de ça, j'étais logé chez l'habitant. Donc, du coup, j'ai eu le plaisir de connaître une sorte de.
Quel était le prénom de l'habitant
à Buckenham, s'il m'écoute, parce qu'il parle français et il écoute beaucoup la radio et surtout le vin, donc du coup il y a des chances, peu importe. J'ai eu la chance d'être du coup logé chez l'habitant, une famille d'avocats d'affaires assez pointilleux, et quand ils ont vu que j'étais français, fils de vigneron, ils se sont dit tu dois connaître le vin, tu vas faire partie de notre club de dégustation du jeudi soir. Et moi, j'avais déjà du mal en anglais.
Ça allait mieux après l'apéro, non ?
Voilà, c'était ça. Ça allait beaucoup mieux, évidemment. Mais c'était difficile de lui dire aussi que je connaissais rien au vin aussi. Donc, il a fallu que j'assume un peu tout ça. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte.
À l'époque, vous étiez plutôt Cobol et vous connaissiez pas David Cobol, c'est ça ?
Exactement. C'était exactement ça. Et puis, en fait, avec le temps, on a surtout appris beaucoup de choses. Mais là où c'est hyper important, c'est que j'ai compris aussi l'affect qu'ont les gens au travers les histoires du vin et surtout les actifs. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais dans mes gènes une richesse que je pouvais pas renier.
Hélène, alors quels sont ces vins là ? Parce qu'il y en a quelques-uns quand même.
Il y en a effectivement beaucoup. Et puis surtout, il y a toute cette façon de mener ce vignoble, parce que vous avez fait beaucoup de choses depuis que vous êtes arrivé. Il y a la conversion au bio, éventuellement.
Ouais, depuis 2018.
Éventuellement la biodynamie à l'horizon.
Exactement. Alors c'est un projet, exactement. Alors moi je pars sur le principe que déjà la très grande majorité du domaine, puisque sur les 18 hectares, il y en a 16 exactement qui sont travaillés en parcellaire. Alors l'idée du parcellaire, pour faire très court, c'est en gros un vigneron qui va exploiter une partie de sa vigne différemment des autres, tout simplement parce qu'il a un terroir exceptionnel, une climatologie exceptionnelle, etc. Et là en fait, c'est que comme on est au reposoir, et le reposoir c'est un lieu dit qui date de l'ère glaciaire, on se retrouve avec des sols très argileux qui ont du coup une identité qui est totalement remarquable de base, puisque c'est des identités qui n'ont rien à voir avec le cru Apremont, qui est majoritairement basé sur des sols calcaires. Et donc, du coup, on va chercher à travailler parcellairement et à travailler justement avec beaucoup d'identités. Et pour revenir sur le biodynamique, moi j'aimerais beaucoup y aller dès à présent, mais la seule réalité c'est que le terrain fait foi, et le terrain, pour l'instant, j'ai besoin de l'apprendre, tout simplement. Et en tout cas, avec Maxime, on a dit la même chose, c'est-à-dire qu'on allait attendre 2 ou 3 ans le temps d'installer en bio.
Oui, d'appréhender tout ça.
D'appréhender tout ça avant d'attaquer le biodynamique.
C'est bien.
Alors parlez-nous de ces cuvées parcellaires. Alors par laquelle on commence ? Parce qu'effectivement, il y en a pas mal.
Ouais, il y a des blancs ou pas ?
Alors la majorité en blanc, la très grande majorité sont en cépage jacquère. On va retrouver une altesse qui va faire la roussette de Savoie et deux mondeuses.
Alors je précise pour nos lecteurs extraterrestres que l'altesse c'est un cépage. Hein, oui. Parce qu'on a une altesse chez nous, ça fait assez royal effectivement, mais c'est normal en Savoie.
Oui, d'ailleurs son histoire fait beaucoup penser à ça et bon. Il y a plein de détracteurs, d'une manière ou d'une autre. Il y a deux versions de l'histoire de l'altesse, mais on ne reviendra pas sur cette émission là-dessus, je pense.
Non, ça serait trop long.
La chypriote et les autres, c'est ça ?
Exactement. Moi, je suis plutôt l'appropriation des autres. Ouais.
Bon, allez, on a dit que ce serait trop long.
Oui, que sous-entendu dans cette émission, c'est exactement. Dingue. Alors, le vin, une Vino Veritas, là.
Alors, tout simplement, du coup, en entrée de gamme, on aura le Moulin, qui est un parcellaire en très grande majorité argileuse, puisque c'est 80% d'argile rouge et 20% d'argile bleue. Officiellement 100% d'argile. Cet apport d'argile est hyper important. Comme je l'ai dit, au reposoir, on retrouve majoritairement ça. Et de commencer une dégustation justement par un terroir qui est plutôt très argileux, ça me permet justement de différencier tout de suite. Alors sur le Moulin, c'est des vignes en lyre, c'est des vignes assez atypiques que mes grands-parents...
Qu'est-ce que c'est qu'en lyre, ça ?
Ah, c'est assez complexe. C'est assez complexe.
En fait, faut lever la tête pour lire mieux.
Exactement. En fait, c'est des vignes qui sont très hautes, qui font
plus grandes que moi.
Ouais, et moi aussi, malheureusement.
Plus 1m50, c'est bien ça.
Exactement.
On peut perdre des gens dans la vie.
C'est ça, moi vous ne me retrouvez pas là-bas.
Hélène, on a mis 3 semaines à en trouver.
Ça fait de très belles photos et ça fait de très beaux vins pour la simple et bonne raison qu'en fait, on a une double exposition foliaire pour le même pied, puisqu'on a une installation en V, comme la lyre, justement, sur chaque pied, peu importe.
Et ça, c'est le vigneron qui décide comment il installe sa vigne ou pas ?
Oui, en fait, le modèle, il est installé depuis mes grands-parents, d'ailleurs.
Mais vos petits collègues vignerons peuvent les installer différemment ?
Oui, clairement, clairement, c'est tout à leur choix. Le cahier des charges acceptant au minimum 5000 pieds hectares, après c'est à vous de
chacun
voir.
Chacun se débrouille. Quoi.
Chacun se débrouille.
Alors, d'accord. Malheureusement, on ne va pas pouvoir citer toutes les cuvées, il va falloir faire un peu plus vite que ça, hélas. Donc moi j'ai envie de citer En route vers l'apéro, rien que pour le nom. Ah, parce que franchement, un vin qui s'appelle En route vers l'apéro, j'ai tout de suite envie d'en prendre une caisse pour mes nombreux amis et moi-même.
Hein, avec modération, nous sommes d'accord.
Absolument, mais en même temps, c'est un vin nature en plus.
Exactement.
On est sur un vin nature joyeux, friand.
Exactement. C'est une cuvée qu'on a créé pour les 140 ans du domaine, donc en 2020.
140 ans, c'est dingue.
Et ça coûte 7 euros en plus.
Ouais, c'est vraiment
cher, hein.
C'est vraiment un vin
bon
accessible.
Plan,
l'identité, elle est hyper importante, puisque sur la jacquère nature, on est plutôt sur des choses plutôt très proches de la pêche fraîche, et ainsi de suite. Et le fait de rester nature, on a quand même ce côté légèrement fermentaire qui mène beaucoup de complexité avec un élevage en béton sur un peu plus de...
Et Jérémy, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat? Parce que d'abord, il faut casser le mythe, hein, les vins de Savoie uniquement au ski, hop, on oublie, ouais. C'est bien, mais il n'y a pas que, voilà.
Exactement.
On peut prendre son pied toute l'année, hein, il reste quand même 11 mois par an. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat, soit Jérémy, soit Hélène, soit Philippe, avec...
Ah ben, avec ça, la pêche, le poisson va très bien. Hein. Jérémy.
Bah, clairement, majoritairement, localement, en fait, on a plutôt tendance à être vu de décembre à fin mars, et c'est vraiment dommage, parce que la majorité des sommeliers, et même très, très locaux,
on en connaît un sympa,
des très beaux étoilés, beaux étoilés. Alors, je n'ai pas eu le plaisir, malheureusement, de vivre l'expérience.
Avec Philippe, il y a très peu de gens qui ont vécu avec Philippe.
Mais localement, il y a beaucoup de gens qui font des accords mets et vins très faciles avec des poissons de lac ou avec plein de choses comme ça, et ça fait des très bons vins de printemps et d'été, et ça marche très très bien.
Pour terminer, Jérémy, vous avez un site internet, peut-être vous avez
domaineduprat.com, tout simplement.
Duprat, ça s'écrit comment, d'ailleurs, Duprat?
D-U-P-R-A-Z. Il faut absolument goûter aussi sa Mondeuse et son Phénix. On est sur des cuvées plus chères, ça peut monter jusqu'à 30 euros, mais c'est magnifique.
Très bien. Et pour terminer, température de service, pas trop chaud, pas trop froid?
Jamais en sortie de frigo. Laissez toujours une heure de temps à température ambiante.
Oui, enfin, quand on est une heure de temps en pays catalan, ça fait ça monte vite, là, non?
C'est pas pareil qu'en Savoie, c'est sûr.
C'est combien?
Autour de 12-13 degrés, c'est très
bien. Merci beaucoup, Jérémy. Merci également, Hélène et Philippe. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner un coffret Divine et chef et sommelier.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas Paris, 31 Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, Invino Sud Radio. Et on retrouve Philippe Forbrach et puis le Vino Quiz, Philippe.
Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret Divine et 6 verres, œnologue expert de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière était, quelle est la seule appellation produite par Marie Pascot, propriétaire du château Pampelonne à Ramatuel? Réponse A, Côte d'Auvergne. Réponse B, Côte du Rhône. Réponse C, Côte de Provence. Eh bien, il fallait partir sur la Méditerranée, puisque c'est Côte de Provence. Réponse C, qui était la bonne réponse.
Alors, cette semaine, Philippe,
quel cépage traditionnel de la Savoie, Jérémy Duprat, propriétaire du domaine Duprat, cultive-t-il? Réponse A, la Mondeuse. Réponse B, le Malbec. Réponse C, le Sémillon. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, à ce coffret Divine et Siver œnologue expert de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv.
Exactement.
Rubrique Vino Quiz. Et on vous souhaite des tirs au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Forbrach. Invino Sud Radio accueille maintenant Yulin Lee, dirigeante de la Maison du Saké et co-auteur d'un livre au nom très simple et qui claque, Saké. Bonjour, Yulin.
Bonjour.
Alors, on commence par quelques questions bêtes sur le saké. Il paraît que ça sent la rose, oui ou non?
Ça a été souvent l'image qu'on a eue du saké. Mais non, ça ne
mais c'est
pas
non, quoi. Alors, il paraît qu'il laisse apparaître des femmes nues dans des verres des restaurants chinois. Oui ou non?
Vous commencez
faux
très
encore,
fort, Alain Marty.
Faux. Et troisièmement, il paraît que le saké est uniquement produit au Japon. Oui ou non?
Faux encore également.
Oh là là, trois fois perdu. Hélène Pio, c'est à vous. Bon, rattrapez le truc, là.
On a vraiment besoin de Yulin Lee pour nous éclairer sur le saké, je crois. Donc, effectivement, Yulin, vous êtes le co-auteur de ce livre Saké avec notre chroniqueur Fabien Imbert.
Que l'on salue.
Voilà. Qui sort ce mois-ci aux éditions sur Hachette Pratique. Alors on dit tout de suite 25 euros, 288 pages, comme ça c'est fait. Et effectivement, à première vue, on se dit mais un livre entier consacré à ce qu'Alain Marty racontait comme horreur, là, c'est pas possible. Effectivement, c'est pas possible, parce que le saké, c'est bien plus que ça.
Effectivement, il n'y a pas un saké, mais des sakés. On a fait souvent l'amalgame avec un alcool qui n'était pas des sakés. Il faut surtout comprendre que le saké, c'est un alcool de fermentation et pas de distillation.
D'accord.
Ça sent pas forcément la rose, il n'y a pas forcément une
des
femme
nues.
Ou un homme nu au fond et du verre. Hein. Ouais,
ah, ouais. Moi, j'ai jamais vu d'homme, merde alors. Enfin, pardon, on ne dit pas des gros mots à l'antenne.
Non, non, pas de gros mots, mais on va vous acheter un verre spécial pour Noël, tiens, avec Philippe. Hein. On va peindre un petit
oui,
garçon,
oui,
un petit
oui,
monsieur tout nu.
On peut en trouver quand même. Hein,
ouais. D'ailleurs, vous êtes de quelle origine? Vous n'êtes pas japonais, hein?
Non, je ne suis pas japonais.
Vous êtes un vrai melting pot, vous. Hein.
Ma mère est tunisienne et mon père est chino-cambodgien et je suis né à Paris. J'ai eu la chance de vivre au Japon lorsque j'étais lycéen.
Oh là, c'est extraordinaire.
Un échange étudiant qui a changé votre
vie. Un an au Japon, quoi.
Un an à Tokyo, dans une famille japonaise, dans un lycée
génial,
japonais.
Hein. Ouais, c'est génial.
Vous parliez japonais quand vous êtes parti ou...
Pas du tout.
Et en arrivant?
Pas un mot. Je ne parlais aucun mot japonais à part deux ou trois choses que...
Bonjour, et puis saké.
Oui. Pas encore saké. Ouais. J'ai découvert d'ailleurs le saké lorsque j'étais lycéen. L'alcool était interdit, bien sûr, aux mineurs. Mais à la fin de mon séjour, ma famille d'accueil m'a invité à un très chic et très bon restaurant de sushi. Et m'a fait goûter
sushi et saké.
Un verre de saké.
Philippe Forbach. Ouais, c'est étonnant, hein, c'est vrai. D'abord, vous avez combien, dans votre boutique, là, vous avez combien de références? 600, 6000?
Non, pas encore à ce point-là, mais on en a plus d'une centaine pour l'instant.
C'est énorme, c'est énorme.
Non, non, dans le saké, les sommeliers, j'allais dire français en tout cas, européens plus largement, redécouvrent le saké ou l'appréhendent de plus en plus souvent aujourd'hui, y compris dans les accords vin, entre
oui,
guillemets,
ça,
parce que
ça
considère un peu comme un vin de riz quelque part, et c'est comme ça qu'on le baptise souvent. Et le phénomène fermentaire, contrairement à la distillation qui est souvent l'image qu'on a finalement du saké, ça, au Japon, il y a une association qui s'appelle JSS, Japan Sake N Soshu. Et le Soshu, pour le coup, est distillé,
tout à fait.
Alors que le saké est fermenté. Et effectivement, il ne faut pas confondre les deux parce que ce n'est pas la même utilité, ce n'est pas le même moment de consommation. Et il y a une diversité, mais je suis sûr qu'on va en parler dans un instant, mais il y a une diversité incroyable en fonction des riz, en fonction des températures de fermentation, en fonction des élevages, en fonction de la façon dont on va le servir finalement.
Et oui.
De la température, le type de verre, même aujourd'hui qui sont travaillés, la petite tassée en bois carré, les petits verres, les mini-verres sont aujourd'hui remplacés par des verres vraiment de dégustation. Et même les grands verriers de ce monde travaillent sur la mise en valeur du saké à travers une verrerie qui va ramener avec des codes du vin finalement le saké au centre de la gastronomie.
Alors cette incroyable diversité de saké, Yulin Lee, vous la faites découvrir à la Maison du Saké 11 rue Ticton à Paris dans le 2e. Et effectivement, Philippe Forbrack parlait de vin de riz, de bière de riz, mais en fait c'est pas tout à fait ça le saké.
Alors le saké, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un mais des sakés. Vous pouvez avoir un type de saké qui va ressembler beaucoup au vin, avec un nez qui va être très aromatique. On va le faire tourner dans un verre à vin pour avoir toute sa palette et on va le déguster exactement comme un vin. Puis vous avez des sakés qui sont complètement différents des vins. Il faut vraiment oublier l'aspect du vin. Il faut le boire plutôt dans des verres à saké. Et là, on va avoir des choses qui sont vraiment très différentes. Et il faut s'imaginer comme un voyage au Japon. C'est la même boisson. Pour faire du saké, il y a trois ingrédients principaux. Il faut de l'eau, du riz et la main de l'homme. Pour faire joli, en fait, surtout un travail des levures et des champignons. Et par rapport à cet équilibre, le maître Toji, c'est-à-dire l'équivalent du maître de chez ou le brasseur, va pouvoir donner un type de saké.
Eh oui. Et ça coûte cher? Comment ça coûte une bouteille de saké? D'abord, ce sont des vraies bouteilles de 75 centilitres et 50 centilitres.
On en trouve pour les premiers prix autour de 20 euros, jusqu'à à peu près 600-800 euros la bouteille.
600-800 euros
Pour des bouteilles de quelle contenance, effectivement?
3 centilitres.
Alors, la bouteille de saké, c'est 720 pour une bouteille normale.
C'est 720?
72,
donc oui, 72, quoi. Et donc ça, qui achète en France? Alors, au Japon, on peut comprendre, mais quoi, des amateurs uniquement? Demain matin, les auditeurs d'une vidéo Sud Radio, qui va acheter?
Alors, c'est très diversifié. On a vraiment de tout. Au début, on avait surtout des amateurs de Japon, des gens qui sont déjà partis au Japon, des gens qui aimaient le Japon. Et puis, au fur et à mesure, grâce au travail de la restauration, grâce au travail des accords et de sommeliers, on a une clientèle très diversifiée, des gens qui viennent chercher vraiment un alcool pour boire avec la nourriture.
Philippe Forbach, on est passé du côté original à presque effet de mode?
Oui, je pense qu'on rentre dans cette dimension-là aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des sakés qui sont super à l'apéritif, des jeunes sakés qui sont souvent assez accessibles en prix. Et pour,
c'est à titre combien en général?
Alors, il y a une variation de degrés,
degré.
Mais qui doit commencer pour les plus faibles autour de 10, 11, 12. Et ça monte jusqu'à 16-17 avec une moyenne autour de 15.
La moyenne, c'est à peu près 15 degrés pour
15 degrés en moyenne, quoi, oui. Ouais.
Donc voilà, et ça va très bien avec, bien sûr, alors, on pense tout à l'heure, vous parliez des sushis, des makis, des sashimi, etc. Tout ce qui est poisson, et s'il y a du riz autour, il y a une certaine logique.
Oui, ça marche.
D'accord. Mais ça fonctionne très bien avec des poissons, travailler avec des crèmes légèrement citronnées, par exemple, ça va, et pas que du yuzu ou du kombawa. Ça marche très bien avec des volailles également.
Des volailles.
Mais oui.
En fait, on ne connaît pas assez en France.
Ça marche très bien.
Avec un plateau de fromage, il peut y avoir des accords magnifiques.
Ouais. Hélène a tout à fait raison.
Vous avez des cocktails au saké?
C'est juste extraordinaire.
Alors, les cocktails au saké, c'est possible, mais c'est déjà un peu plus dur à cause de sa teneur d'alcool. 15 degrés, ça peut être vite fait noyé avec d'autres alcools, mais on peut trouver quand même des choses très sympas.
Quoi, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme cocktail saké qui tient la route ou qui est agréable?
On peut imaginer, par exemple, les sakés non filtrés qui sont légèrement blanchâtres, donc ils vont avoir plus de matière, et ensuite après derrière on peut avoir une base d'alcool un peu plus fort, un alcool blanc et un petit peu une pointe de jus pour
Philippe Urba, vous le conseillez quand même nature, hein, j'ai l'impression.
Oui, nature c'est parfait. Si, moi j'ai essayé parce qu'il y a une grande tradition au Japon qui est la fête des cerisiers, et je me suis dit, mais la fête des cerisiers, le saké, est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit peu de liqueur de cerise, par exemple, quelques gouttes du saké? C'est une sorte de kir, entre guillemets.
Oui, hein. Oui.
Et j'ai trouvé ça vraiment heureux, enfin, en tout cas.
Donc vous l'avez testé?
Oui, on avait testé ça.
Et c'est très bon,
ça.
Quoi.
On avait servi ça à l'apéritif. Et franchement, les gens avaient adoré. Et je me suis dit que même peut-être avec certains desserts, ça pouvait être original et passionnant aussi. Et puis, on travaille aussi la prune et saké. Il y a même une préparation spécifique qui met en valeur le fruit et le saké.
Le méchou, alors c'est un alcool de prune. Alors il peut avoir une base de saké ou une base de shochu, qui est un autre alcool. Mais ça reste très très agréable au palais. C'est en général toujours entre 15 et 16 degrés, très fruité. Ça plaît beaucoup aux gens de chez nous.
Ouais, génial. Que c'est...
Alors, si on veut découvrir le saké, est-ce qu'il vaut mieux aller à la maison du saké ou au restaurant dont vous êtes le patron, Sola, qui est un restaurant étoilé à Paris aussi, dans le 5e. Alors, je connais rien au saké, je veux venir découvrir, où est-ce que je vais? Par quoi je commence?
Les deux.
Alors, je vous recommande le Sola, qui est un restaurant maintenant qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et qui a été pour moi très important dans dans le fait de faire découvrir le saké au grand public. Mais vous pouvez aussi faire les deux, puisque dans la maison du saké, vous avez aussi un restaurant caché derrière la maison du saké, le restaurant R, E-R-H, pour E pour O, R pour Riz et H pour Homme. Et la spécialité, bien sûr, sont les accords mets et saké. Et pour revenir d'ailleurs sur les accords, quelque chose qui marche encore mieux que le poisson ou les fromages, ce sont les légumes.
Les légumes marchent.
Ah oui. Vraiment très très bien avec les sakés.
Notamment les légumes invariables comme les asperges.
Les asperges, c'est très très bien. Tout ce qui est féculent, les pommes de terre, les carottes. Non, les légumes, c'est vraiment le meilleur allié du saké.
Effectivement, on n'y pense pas assez. Alors, oui, il faut préciser, vous êtes très modeste, que R est également étoilé.
Tout à fait.
Et alors, mais pourquoi vous l'avez caché, ce restaurant? C'est pas sympa de cacher les restaurants quand même, je dirais.
Surtout étoilé. Hein. Il y en a quelques-uns qui pourraient se cacher, mais
c'est
pas le vôtre.
C'est ça.
C'était un ancien spa où on a trouvé le lieu, un très très grand lieu, et on trouvait sympa justement de vraiment aller jusqu'au bout de la maison du saké, derrière les étagères, derrière le saké, pour découvrir le restaurant.
Bon ben très bien, et donc deux restaurants, le troisième est restaurant étoilé, il est pour quand?
Peut-être au Japon, un jour, on verra.
Ah, ça serait génial, c'est votre rêve, ça, d'ouvrir un resto au Japon?
Ce serait top, ouais.
Ah, on vous le souhaite en tout cas, merci beaucoup et bravo. Vous nous rappelez donc les adresses des deux restaurants et puis...
La maison du saké, 11 rue Ticton, à Paris, dans le 2e, et le restaurant Sola, 12 rue de l'hôtel Colbert, à Paris, dans le 5e.
Bon, et donc, pour tout savoir, c'est le livre qui s'appelle Saké, il est édité chez qui, comme écoute?
Il est édité chez Hachette Pratique et il coûte 25 euros.
Merci beaucoup, merci à tous. Merci à Jérémy Duprat également, Philippe Forbach, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook InVino, le compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve demain, ça sera 12h30 précise, hein, pour un nouveau numéro de InVino Sud Radio, en direct de chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons Philippe de Boisferré, directeur général du château Louden, et Hugo Babet, fondateur de Moksha, Soul Drink. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à tous les vignerons français, et puis surtout respectez la plus grande des modérations. Salut, salut.
Sud Radio, InVino.